VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel au Burkina Faso. Les mouvements de la société civile se mobilisent pour dénoncer la gouvernance du régime en place. La coalition Bouribana veut convaincre le gouvernement du président Roch Marc-Christian Kabore de prendre une trajectoire qui tienne compte, je cite, des aspirations des populations. Safetou Lopez Zongo est la porte-parole de cette nouvelle coalition.
Nos dirigeants n'ont plus en tête l'esprit de l'insurrection populaire qui devrait les guider vers la mise en œuvre de bonnes politiques publiques. Nous rappelons à nos dirigeants que notre peuple s'est battu pour plus d'équité, de liberté et de justice sociale. Raison pour laquelle nous interpellons le président du Faso afin qu'il prenne toutes ses responsabilités face à la situation du pays. Notre peuple a besoin de réformes courageuses qui peuvent améliorer ses conditions de vie actuelles.
Safietou Lopez Zongo au Burkina Faso. Au Niger, deux policiers et un civil ont été tués samedi soir dans une attaque probablement terroriste contre un poste de police près de la frontière du Burkina, a indiqué le ministère nigérien de l'Intérieur. L'attaque menée par des hommes armés a visé samedi tard dans la soirée un poste de police de la région de Tillabéri, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le bureau du commissaire de police où était stocké des armes a été incendié et plusieurs armes emportées par des assaillants qui ont également endommagé 5 véhicules, dont un de la police et 3 appartenant à des agents. Selon les autorités, les assaillants ont pris la fuite vers le Mali voisin, annonce l'AFP qui cite une source sécuritaire. République démocratique du Congo, lancement dimanche à Paris par des leaders politiques congolais d'un directoire national pour une transition sans Kabila. Le président congolais, en théorie, ne peut pas se succéder à lui-même, mais l'accord du 31 décembre 2016, censé ouvrir la voie aux élections, continue de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. Écoutons Annie Mishimba Makinu. Elle est la vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila.
Notre plan, c'est déjà de réunir, de sensibiliser les Congolais à venir nous rejoindre dans ce directoire pour que nous puissions mettre en place des idées et mettre des stratégies et évincer Kabila du pouvoir. Parce que de toutes les façons, il est maintenant illégitime, illégal. C'est un ex-président, ce n'est plus un président pour nous en fait. Donc nous voulons emmener le Congolais à la conscientisation, à propulser, à booster le Congolais afin qu'il comprenne les enjeux qu'il y a derrière. Il faut qu'il redevienne souverain, il faut qu'il devienne décideur de son avenir. Et nous savons qu'ensemble, que la force, la synergie, la dynamique d'un peuple, c'est une arme en fait. Donc nous, on a l'arme, notre arme c'est le peuple. Et le Congolais doit s'approprier vraiment la Constitution, vraiment s'approprier cet article 64 qui dit qu'on ne peut pas se laisser gouverner de force.
Annie Mishimba Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila à Paris. Début dimanche à Kinshasa de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, mais la première semaine ne concerne que 4 des 24 communes que compte la capitale de la RDC. Corneille Nanga, président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, se veut optimiste.
Nous venons de lancer l'opération à Kinshasa et nous venons en fait de commencer dans quatre communes. La commune de la Gombe, la commune de Lingwala, la commune de Kinshasa et la commune de Baroum. À partir de la semaine prochaine, donc le vendredi, nous allons nous étendre sur les restes des communes et nous allons donc atteindre la vitesse maximale. C'est un grand jour. Plus ou moins 4 500 électeurs attendus à Kinshasa, mais les Kinois me disent que non. 4 millions, c'est peu. La balle est dans notre camp, nous, Kinois. Enrôlons-nous massivement, avec discipline, sans beaucoup d'hésitation. Enrôlons-nous massivement pour que nous atteignions 5 millions, 6 millions, pourquoi pas 8 millions.
Corneille Nanga, président de la CENI, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Cameroun, désarroi des cacao-culteurs issus des écoles paysannes du pays. Le prix du cacao, comme on le sait, a chuté sur le marché mondial, ce qui n'est pas de nature à encourager certains d'entre eux. Par exemple, dans la localité d'Elegue Mfomo, à 60 km environ de Yaoundé. Et pourtant, ceux-ci sont engagés dans un programme agricole visant a produit désormais au Cameroun un cacao de qualité et qui attire cependant des investisseurs malgré le désarroi actuel. Reportage dans deux villages concernés avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Julentap.
La création de 34 écoles paysannes dans la zone a contribué aux bonnes pratiques agricoles ici. Des écoles qui ont aussi ouvert leurs portes aux femmes. Odile Nkoussa est une veuve. Elle y a fait ses classes et sa plantation cacaoyère est présentée aujourd'hui comme un laboratoire de qualité dans son village à Tala 2.
Notre formateur nous avait appris à rajeunir le champ. Quand une fille de cacaoyère est déjà très vieille et quand elle fait sortir les gourmands, et j'ai aussi pris la méthode de prendre les cabosses dans ce champ, faire la pépinière et planter comme vous le voyez.
Vous récoltez combien le sac de cacao ici?
Une année, je récolte souvent plus d'une tonne.
Sur l'ensemble du territoire national, près de 800 écoles paysannes d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles assistent les cacao-culteurs. Objectif, changer la mauvaise réputation autour du cacao camerounais. Comme le confirme André-Marie Assina Elouma, coordonnateur national du programme d'appui à la gestion de la qualité de la production des filières café-cacao.
La chaîne qui va de la cabosse qui est récoltée jusqu'au sac qui va dans le marché a beaucoup de problèmes. On a de mauvaises réputations qu'il y a les odeurs de fumée, il y a les odeurs de goudron, il y a les odeurs de fermentation. On peut créer une crème de cacao qui reflète les standards internationaux de qualité. Et on a des partenaires qui sont prêts à le prendre. On a amélioré le budget du projet cette année pour qu'on puisse vous doter en équipement pour ces récoltes.
Il reste que le rapport qualité-prix du cacao ne suit toujours pas. De quoi laisser les cacaoculteurs de la zone dans le désarroi et face aux coxeurs impitoyables.
Il y a des exportateurs qui ont des coxeurs qui leur donnent de l'argent pour venir ramasser notre cacao.
Lorsque le coxeur se présente devant toi, tu as peut-être un 5 sacs. Tes enfants doivent aller à l'école. Tu n'as pas d'autre choix.
Justement, la visite des investisseurs étrangers dans ces bassins de production de cacao de qualité visait à donner aux cacaoculteurs la conduite à tenir dans le contexte actuel où le prix du cacao est à la baisse sur le marché mondial. Narcisse Olinga, sous-directeur des échanges extérieurs au ministère du Commerce du Cameroun.
Vous serez rémunéré à un prix au-delà de ceux qui ne font pas la qualité. C'est pour cela que nous sommes ici avec ces investisseurs qui sont justement à la recherche de ce produit de bonne qualité.
À l'horizon 2020, le Cameroun compte produire 600 000 tonnes de cacao. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, Nasser Zefzadi, recherché par la justice, a été arrêté aujourd'hui après avoir défié l'État pendant plus de 6 mois. Monsieur Zefzafi était recherché depuis vendredi soir par la justice pour avoir interrompu le prêche d'un imam à la mosquée Mohamed V, la principale de la ville d'Al-Oseima. Il est notamment accusé d'avoir insulté le prédicateur et prononcé un discours provocateur. Ce chômeur de 39 ans était devenu ces derniers mois le visage du mouvement populaire, le Irak, qui secoue la région du Rif, où la mort en 2016 d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures avait suscité l'indignation. Un dirigeant de l'organisation extrémiste État islamique en Tunisie, qui préparait des opérations durant le Ramadan, a été tué par les forces de sécurité près de Kasserine, dans l'Ouest, ont affirmé aujourd'hui les autorités. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cet élément terroriste classé comme dangereux a été abattu dans une embuscade tendue dimanche soir par une unité spéciale de la garde nationale à Assid Ferid, à une vingtaine de kilomètres de Kasserine, près de la frontière algérienne. L'identité de cet homme, qui faisait l'objet de 11 mandats d'arrêt pour implication dans des opérations terroristes, n'a pas été divulguée. Et puis le président américain Donald Trump a contre-attaqué aujourd'hui en dénonçant les mensonges des médias qui multiplient les révélations sur l'affaire russe, mettant en cause à présent Jared Kushner, son gendre et très proche conseiller. Tout juste rentré à Washington d'une tournée de 9 jours au Moyen-Orient et en Europe, Donald Trump a réagi dans une série de tweets à ces accusations qui placent la Maison-Blanche en situation de crise. La presse américaine affirme depuis vendredi que Jared Kushner a cherché à mettre en place un canal de communication secret avec la Russie pendant la période de transition. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.